Je vous propose pour ce matin d'ouvrir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors, pour ceux qui n'ont pas pris de Bible, vous pouvez lever la main, il y a tout un tas de Bibles en pré derrière. Et je vous propose de l'ouvrir dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois, Deux Rois au chapitre 6. Deux Rois au chapitre 6. Vous savez que je continue, donc... ce livre des rois, dans le désir d'apprendre, encore une fois, comment le Seigneur a travaillé dans l'Ancien Testament, parce que nous avons ce Dieu qui a œuvré dans l'Ancien Testament, et tout ce qui s'est passé, c'est pour notre instruction. C'est que nous découvrons, et c'est pour que nous puissions comprendre et avancer. Alors, dans le second livre des rois, au chapitre 6, j'aimerais commencer la lecture à partir du verset 8. Est-ce que vous êtes calé sur le 8, verset 8 du chapitre 6 de Deux Rois ? Oui ? C'est bon ? Pas encore ? Alors j'en profite pendant que vous cherchez de saluer aussi tous ceux qui sont là ce matin et qui étaient là hier soir tard. Merci aussi aux jeunes, c'est vrai, pour ce moment de témoignage, de prise de position que vous avez eue. Christ est ma seule fondation, c'est ce que nous avons entendu. Et croyez-moi, c'est merveilleux de pouvoir l'entendre, et de l'entendre de gens qui le disent de leur cœur. Dans ce livre de Rois, au chapitre 6 du second, je commence la lecture. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et il consulta ses serviteurs et dit « Mon camp sera à tel ou tel endroit ». Mais l'homme de Dieu, donc Élisée, envoya dire au roi d'Israël « Garde-toi bien de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. » Alors, le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Je vais réexpliquer ça. Il y avait dans ce roi de Syrie l'intention de rentrer en guerre avec Israël et il a envoyé son armée. Et son armée est à chaque fois déroutée parce que donc Élisée sait exactement où elle est envoyée à l'avance sans même donc avoir vu les choses. Le roi d'Israël donc envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une ou deux fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire et il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Seigneur, personne, seulement le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces, même dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez voir où il est, et je l'enverrai prendre. » Et on vint lui rapporter, « Il est à Dothan, dans la ville de Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant, le serviteur de l'homme de Dieu, se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, mais comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée, alors il pria l'Éternel en disant, « Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Et Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie, la ville ennemie. Et le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Mais est-ce que je dois les frapper, mon père ?» Ils répondirent, « Tu ne frapperas pas. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée ou avec ton arc ? Mets devant eux du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, qu'ils s'en aillent ensuite vers leur seigneur. » et le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent, et il les laissa partir, et ils s'en allèrent vers leur seigneur. Les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Un moment particulier de cette histoire, hein, n'est-ce pas, de ces prophètes et de ces rois. Un moment incroyable que probablement vous et moi, nous ne verrons jamais, où Dieu va ouvrir les yeux de ce serviteur, de ce jeune serviteur, qui va pouvoir voir les choses spirituelles que l'on ne voit pas aujourd'hui de nos propres yeux, qui va voir, en fait, l'armée céleste qui est là autour d'Élisée, le prophète, et qui va tout simplement réaliser que Dieu est aux commandes, même si on ne voit pas les choses, Dieu est aux commandes. C'est lui qui a son armée, qui est là, prête à l'action. Vous savez pourquoi on appelle l'Éternel le Dieu des armées ? Pas parce que nous, nous sommes une armée, hein. C'est pas nous l'armée du Seigneur, c'est les anges, n'est-ce pas, son armée. Nous sommes ses serviteurs, et quand la Bible parle de l'Éternel des armées, il s'agit des armées célestes qui sont aux commandes de notre Dieu. Et le peuple d'Israël a bien des difficultés, n'est-ce pas, avec ses voisins, en tout cas à cette période-là, il est continuellement attaqué. Et dans cet épisode-là, c'est un des bels épisodes que j'apprécie particulièrement, où le peuple d'Israël va marcher à la suite de son Seigneur, en obéissant à ce prophète Élisée. Et nous voyons ce qui se passe. Il n'y a pas une goutte de sang. Il n'y a pas une goutte de sang. On va servir un banquet à ses ennemis qui vont repartir et qui vont dire « c'est bon, on les laisse tranquilles, on a compris ». J'aime cet épisode. J'aime cet épisode. Vous savez, quand Dieu est aux commandes, il peut nous surprendre. Bien des fois, le Seigneur a voulu être aux commandes de son peuple, parce que ce peuple devait être un peuple qui témoignait de sa différence, parce que Dieu est au milieu d'eux, pas parce que c'est un peuple meilleur que les autres, n'est-ce pas ? Parce que Dieu est puissant au milieu d'eux, de ce peuple si infime, si petit. Nous avons évoqué il y a quelque temps la période des juges, où ce peuple d'Israël refusait que ce soit l'Éternel qui soit leur maître, leur seigneur. Et la Bible nous dit qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, et nous avons eu des commentaires, n'est-ce pas, là-dessus, signifiant que même Dieu n'était pas leur roi. Alors, ils étaient là, constamment attaqués par leurs ennemis, subordonnés à leurs ennemis. Alors, ils vont demander un roi. Vous connaissez aussi cette période d'Israël, ils demandent un roi. Nous voulons être comme les autres peuples, nous voulons avoir un roi que l'on voit, que l'on peut toucher. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand. Oh là là, il a de l'or autour de lui. Nous voulons voir comme les autres, n'est-ce pas, ce roi qui nous commande. On veut savoir qui nous commande. Dieu leur dira, mais ce roi vous demandera vos fils pour l'armée, vos filles pour son palais. Il vous demandera de l'or. Mais ce n'est pas grave, on veut voir, on veut, voilà, que ça soit comme pour les autres. Regardez comme il est beau, voyez comme il est grand. Regardez le palais qu'il construit. Et encore une fois, on se rend compte que c'est pour abandonner Dieu. On veut suivre des choses faites visuellement qui nous touchent, qui nous parlent, n'est-ce pas ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Un autre texte en 2 Corinthiens 5, 7 nous dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons car nous marchons par la foi et non par la vue. » Pourtant, je me dis, à la place de ce serviteur d'Élisée, quelle joie ça devait être à ce moment-là, n'est-ce pas ? Oh, c'est bon, je suis dans le bon camp là. On voit les chars de l'armée céleste qui sont là. Ce n'est pas, pas l'exemple, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas notre quotidien. Vous et moi, ce n'est pas comme ça. Pas comme ça que ça se passe. Pour autant, j'aimerais vous encourager ce matin. Parce que si nous regardons avec les yeux de la foi, malgré tout, notre foi, elle n'est pas liée à notre pensée. Elle est véritablement basée sur cette parole de Dieu qui, dans le passé et encore dans le futur, va se manifester. J'aimerais vous encourager ce matin d'avoir les yeux de la foi bien ouverts, les yeux de la foi. Et pour cela, j'aimerais vous poser une petite question. Qu'est-ce que nous faisons ici à Moissy, mes amis, mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce que nous faisons ici, dans ce bâtiment? Petite ville insignifiante, banale, de la modeste banlieue parisienne. Qu'est-ce que nous faisons tous ici? Nous avons commencé à servir le Seigneur dans cette ville en quelle année, Joël, je cherche? 93. Et au fur et à mesure, le Seigneur a manifesté son œuvre. On était dans les maisons à l'époque. On prêchait dans la maison de Joël, la maison aussi de Jean-Claude Adéca. Je me rappelle d'avoir prêché là-bas. On était aussi chez les Drake pendant pas mal de temps. On était dans des cellules, n'est-ce pas? Et puis après, ceux qui étaient là lors de la construction, levaient la main. Ah, il y a quelques-uns. On a épuisé nos corps, n'est-ce pas? 1 an et demi à construire, à faire les choses. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait ici, les amis? À vue d'homme, je vous pose la question. On a construit ces locaux. Après, on était contents, on s'est réunis. On a pu commencer à témoigner plus facilement avec un bâtiment comme cela. Mais à vue humaine, qu'est-ce que l'on est? J'ai appris cette semaine, je ne sais pas si vous êtes en lien avec les nouvelles de l'Institut biblique de Genève, que le directeur de l'Institut biblique de Genève a changé. Vous savez qui c'est maintenant qui va prendre la relève en 2027? Qui? C'est qui Jonathan Meyer? Sandrine, c'est qui Jonathan Meyer? Il était... Evan Drake est en train de mettre en place un institut biblique au Togo, pardon, excusez-moi. Radio Espérance, Togo. Adam et sa famille sont en train de se préparer pour aller réunir les églises baptistes à Lomé et travailler avec elles. Étienne, Paris-Saint-Lazare. Harry Noël, à quel endroit? Paris 20e. Lisa, avec son mari au Mets-sur-Seine. Sephora, tout pour sa gloire. Gabriel Bianco. Qu'est-ce qu'on fait ici, mes amis? À vie humaine, on fait quoi? Il y a une équipe de 11 personnes qui sont parties au Togo. Valérie est revenue et, merci Seigneur, elle est parmi nous. Continuez de servir, elle va essayer de servir à distance. Nous l'avons lu dans la lettre de prière de Evan. Christophe est en train d'installer un système électrique là-bas pour que l'Institut puisse continuer là de fonctionner. Qu'est-ce qu'on fait ici? Certains anciens ont travaillé, je le disais tout à l'heure, ils ont usé leur cœur, corps et leur cœur aussi, peut-être. 3 ont maintenant laissé la main, Joël Candal, Joël Lizimac et Jean-Pierre, ils sont toujours dans l'église, ils sont toujours actifs et on compte sur eux pour ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Les autres anciens que vous avez aujourd'hui qui prennent la relève, essaient de servir, s'impliquer. Pas mettre à l'honneur les gens, ce n'est pas du tout l'objet de mon message. Mais les Coutaillards s'occupent d'un orphelinat au Burkina Faso, je pense, hein. Yvon, responsable du CEDEF, qui est en charge de l'entraide et du témoignage auprès des détenus de leur famille avec les aumôniers militaires au sein du CNEF. Les comités dans lesquels nous servons les uns et les autres, vous et moi, comme le comité des fêtes hier soir, a servi des jeunes qui étaient venus pour louer le Seigneur, pour une journée de joie et de victoire. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait ici, les amis? qu'est-ce que nous faisons tous ensemble? Nous ne sommes pas grand-chose. Vous et moi, nous sommes de petites gens et il ne s'agit pas de marquer l'histoire de notre propre personne. Mais malgré nos différences, malgré nos caractères, je sais que j'en ai un sacré, malgré nos origines différentes, peut-être nos agacements, peut-être aussi nos prises de bec, nos joies aussi, parce que nous en avons beaucoup, nos pleurs et quelques cris de victoire, qu'est-ce que nous faisons? Plusieurs d'entre nous se sont mis à se former. Il y en a qui ont terminé des cursus, que ce soit pour servir peut-être dans l'avenir. Il y en a qui sont encore en formation, qui vont continuer de se former. Il y en a qui, peut-être, sont en train de se poser des questions sur leur avenir. Nous avons un comité d'entraide qui essaie d'aider autant que possible les personnes qui sont sur notre route, d'avoir un souci des uns et des autres. Alors je vous pose la question encore une fois, qu'est-ce que nous faisons ici, mes frères et mes sœurs? Nous cherchons le royaume de Dieu. Oui. Nous cherchons à faire en sorte que le royaume de Dieu puisse se manifester sur cette terre. Ce n'est pas nous le royaume, c'est Dieu qui règne dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre Église. Et nous voyons au travers de tout ce que j'ai évoqué, et j'en ai oublié plein d'autres et je m'excuse, mais je me suis dit, voilà, je vais encore oublier des mondes certainement, et rappelez-moi s'il y en a, mais nous servons le Seigneur, nous servons le royaume de Dieu. Nous essayons avec ce que nous sommes, petites gens, d'ouvrir nos yeux de la foi et de dire, waouh, je ne vois pas grand-chose, mais je suis là où le Seigneur me demande d'être, n'est-ce pas? Nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Génération après génération, hommes, femmes, jeunes, nous avons goûté à sa grâce et nous servons sa gloire. Nous parlons de l'amour du Seigneur, de ce Seigneur que nous aimons et que nous servons. Petite église, c'est pas grave. Nous sommes là où nous devons être pour glorifier seul le Seigneur. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a deux ordres missionnaires qui nous sont donnés. Il y a deux grandes missions qui nous sont confiées à nous, ces enfants. La première, vous la connaissez. Matthieu, chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant, les enseignant, gardant toutes les choses qu'il nous a prescrites avec cette affirmation qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la première, en Matthieu 28. Est-ce que vous connaissez la précédente? Deux jambes. La première et la seconde, elle est en Matthieu 25, prenez avec moi. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Matthieu 25, verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qu'il vous a préparé dès la fondation du monde, les yeux de la foi. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes répondront, Seigneur, mais quand t'avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, soif et t'avons-nous donné à boire, et t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, en vérité, Je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait, vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est la deuxième grande mission. Je ne vais pas aller jusqu'au bout du passage, mais c'est la deuxième grande mission. La première mission, c'est d'annoncer la parole de Dieu autant qu'on peut, partout, jusqu'aux extrémités de la terre, si le Seigneur permet de le faire. Et la seconde, c'est de montrer son amour. De se comporter avec les gens comme si c'était Christ qui était en face de nous, et c'est ces deux jambes sur lesquelles nous devons marcher en tant qu'église de Moissy-Cramayel. Montrer l'amour de Dieu, comment cet amour est grand, comment cet amour nous a transformés, nous a changés pour que nous puissions faire ce qu'il nous demande de faire. Ne vous découragez pas de faire le bien, comme nous dit la parole de Dieu. J'ai regardé dans le passé, et maintenant j'aimerais regarder dans l'avenir. J'ai posé la question, qu'est-ce que nous faisions, qu'est-ce que nous avons fait? Et je vous pose la question maintenant. Qu'est-ce que nous ferons? Qu'est-ce que nous ferons demain? J'attends la réponse. Nous cherchons le royaume de Dieu. Premièrement, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Hein, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Seulement pour chercher le royaume, il faut prendre position. Comme les jeunes ont pris position hier. Christ est ma seule fondation. Il faut prendre position. Vous savez, Dieu ne bénit pas les gens qui sont flottants, qui ne savent pas, etc. Il faut prendre position. Quand on s'engage, le Seigneur s'engage derrière. Et je vous invite à prendre position pour le Seigneur, pour lui, pour qu'il règne dans votre vie, pour qu'il règne dans notre Église et qu'il continue de vous conduire, de nous conduire selon sa volonté, avec les yeux de la foi, non pas avec les yeux de « waouh, qu'est-ce que c'est bien, ils sont super bien ici, hein. Ils sont super, oh là là, ils ont ceci », non, avec les yeux de la foi, marchant, non par la vue, mais par la foi, selon sa volonté. C'était une bénédiction pour moi hier d'entendre les jeunes chanter et prendre position. Mais il n'y a pas que des jeunes dans cette église qui doivent prendre position. Non. Le Seigneur s'adresse à tous nos cœurs, n'est-ce pas, chacun d'entre nous, et il nous invite à marcher derrière lui. Dieu veut notre consécration personnelle et puis après notre consécration d'église. Une consécration personnelle qui doit précéder celle de consécration d'église, vous le savez. En tant qu'église, il ne s'agit pas là de monter des projets ou de faire mieux que les autres, de se comparer aux autres églises. Hein. Comparer, c'est ne pas trop savoir où on va. Ce n'est pas non plus de perpétrer quelque chose qui... c'est fait dans le passé, les autres ils faisaient super bien, moi je vais continuer de faire comme les uns et les autres ont fait avant moi, parce que non, aujourd'hui se pose la question à notre assemblée d'aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Qu'est-ce qu'il nous engage? À quoi il nous engage? Dans quoi il veut nous embarquer? Qu'est-ce qu'il veut pour l'église de Moissy-Cramayel? Aujourd'hui, nous avons toujours été une église qui a accompli sa mission, toujours par le passé. Eh bien, nous sommes encore une église en mission aujourd'hui. Mais en mission pourquoi? En mission de quoi? Nous devons avoir cette idée dans la tête. On n'est pas là pour se faire du bien, on est là pour servir le Seigneur et avancer. Et un jour, il nous dira, bon, et fidèle serviteur, entre dans la joie, entre dans la paix de ton maître, comme nous l'avons lu, là, dans ce texte. Donc je m'associe aux autres anciens, nous sommes 6 anciens à réfléchir, et nous voulons nous associer à cette réflexion. Parler de la projection. Comment nous voulons continuer de le servir? Est-ce que vous voulez continuer de le servir, d'avancer et de marcher dans ses œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mes amis, nous ne marchons pas par la vue, c'est pas facile, mais nous marchons par la foi si nous nous confions dans le Seigneur et si nous le laissons au centre de notre vie d'Église. Je termine, encore une fois, par cette même question à laquelle je vous invite de répondre pour vous-même. Il ne s'agit pas, j'insiste là-dessus, de vous faire rentrer dans le projet d'autres personnes. Vous comprenez ? Il s'agit pour nous d'entrer dans le projet de Dieu pour aujourd'hui, dans notre temps. Nous avons des défis qui sont les nôtres, et ces défis-là, il faut pouvoir les vivre avec le Seigneur. L'Église, il y a 20 ans, avait des défis, et merci Seigneur, il a été présent et il nous a aidés à les relever. Aujourd'hui, nous avons des défis en tant qu'Église et nous devons essayer avec lui de les relever. Nous avons le défi de la jeunesse. Nous sommes beaucoup de personnes dans un travail en rapport à l'enfance et à la jeunesse dans cette Église qui constatent beaucoup de choses. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans ce domaine ? Peut-être qu'il faut que nous nous rassemblions et que nous posions la question à Dieu et que nous réfléchissions ensemble comment faire pour aider, n'est-ce pas ? Nous sommes face à un défi qui est aussi peut-être lié au fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui n'ont personne autour d'eux, qui sont abandonnés et qu'on laisse tomber parce que voilà, ils sont plus ceci, ils sont plus cela. Il y a peut-être une réflexion à mener en tant qu'Église de Moissy sur ça. Je ne veux pas porter cette réflexion seule. Nous devons nous poser la question parce que nous sommes une Église en mission. En mission. On va, dans les prochains dimanches, essayer de décliner cela, essayer de vous dire ce que nous pensons de cette mission qui est la nôtre aujourd'hui. Mais nous devons comprendre que l'Église n'est pas juste un club où on s'entend bien, mais c'est un endroit où on se pose devant le Seigneur et dit « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous aujourd'hui ?» Amen. Amen. Nous sommes peu de choses et nous n'allons pas changer la vie du monde, n'est-ce pas ? En tout cas, pas changer la face du monde. Je ne veux pas que l'on se prenne pour des gens particuliers. Mais le Seigneur peut changer les choses au travers de gens insignifiants. Je propose de fermer les yeux pour terminer ce message. Et je vous pose cette question. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi ? Est-ce que tu sais ce que le Seigneur attend de toi ? Que tu sais ce qu'il souhaite pour ta vie. Peut-être qu'il veut t'utiliser dans un sens, peut-être qu'il veut t'utiliser dans un autre. En tout cas, le Seigneur veut utiliser chacun d'entre nous. Mais ça passe par une consécration. Ça passe par un « Oui Seigneur, je veux te servir, je veux t'obéir. » Notre Dieu, nous voulons nous présenter humblement devant toi encore ce matin pour louer ta grandeur. Regardez, Seigneur, avec les yeux de la foi, tout ce que tu as fait toutes ces années et te rendre gloire à toi seul, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi qui peux faire ces choses que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux toucher les cœurs et, Seigneur, merci parce que tu as utilisé cette assemblée. Qui a propagé ta parole à droite et à gauche, Seigneur. Merci parce que plusieurs personnes qui sont passées par ici se sont levées et te servent aujourd'hui. Mais Seigneur, nous voulons aussi te demander pour l'avenir. Tu sais très exactement qui va te servir. Tu sais très exactement qui va se lever. Tu sais qui tu vas équiper. Tu sais très exactement qui tu vas convoquer, Seigneur. Et nous savons que toutes ces choses-là seront faites pour ta gloire. Et nous voulons, Seigneur, te dire, continue de te manifester. Seigneur, le jour où nous serons devant toi, nous ne serons pas du tout orgueilleux, mais nous serons dans la joie
de voir ton trône, Seigneur, ton règne, de voir que tu es ce grand Dieu, Seigneur, qui a dirigé la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie pour ceux qui hésitent, pour ceux qui peut-être ont peur. Seigneur, je veux te demander de mettre la paix dans leur vie, dans leur cœur, afin qu'ils comprennent, Seigneur, que tu les aimes et que ce n'est pas de toi dont il faut avoir peur. Seigneur, notre Dieu, nous voulons nous recommander à toi parce que nous avons besoin de ton intelligence, nous avons tous besoin de ta sagesse, nous avons tous besoin, Seigneur, de ton esprit, nous avons tous besoin, Seigneur, que tu te manifestes dans nos vies pour pouvoir remplir un témoignage qui soit digne de toi. Je veux terminer, Seigneur, par te prier, Seigneur, pour que tu puisses bénir Evan et Christophe, qui sont actuellement au Togo, Seigneur. Tu vois la fatigue qu'ils ont accumulée, Seigneur, à construire ce bâtiment. Tu vois la fatigue aussi et l'énergie qu'ils déploient pour que toutes ces choses se terminent. Tu puisses, Seigneur, les bénir, avec Joy aussi. Que tu puisses les accompagner, les renouveler, Seigneur, et leur donner de vivre, Seigneur, de la joie qui vient de toi. De voir tous ces dizaines, Seigneur, de serviteurs qui se lèvent pour apprendre ta parole. Bénis, Seigneur, ces couples. Je te prie aussi pour que tu puisses bénir Jonathan. Seigneur, si tu le mets à cette place, c'est parce que tu veux l'utiliser. Glorifie ton nom, Seigneur. Et Seigneur, je voudrais te présenter chacun de ceux qui sont passés par ici, comme je les ai mentionnés. Seigneur, te prions parce que des fois, ils doivent vivre des moments peut-être de faiblesse, de questionnement, de difficulté, de doute. Que tu sois leur force. Que tu sois, Seigneur, leur rocher. Que tu sois le fondement de leur vie. Et qu'ils puissent, avec joie, Seigneur, courir la carrière que tu as préparée pour eux, Seigneur. Je te prie pour chacun d'eux, Seigneur, ceux qui sont au loin, ceux qui sont auprès. Bénis-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.